Le thème, les accélérateurs du réveil. Les accélérateurs du réveil. On va aller dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 19. Nous allons avancer dans ce chapitre, portion par portion, et voir quelles sont les clés, les signes du réveil, et quels sont les accélérateurs d'un mouvement de l'esprit dans une église, dans un ministère, dans une région, dans un pays. Dans Actes 19, on peut lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 3 déjà. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Alors il dit « Mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent « Du baptême de Jean. » Verset 4, alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. » Sur ces paroles, notez bien, verset 6, « Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. » Je me suis intéressé il y a quelque temps à quelques définitions du réveil, et si vous allez sur Internet et que vous tapez « définition du réveil », vous allez trouver des sites qui vous présentent toute une somme de définitions, de listes, des définitions magnifiques, des définitions vraiment parfois tellement étonnantes de ce que peut être le réveil. Vous allez y trouver Charles Finney, John Lake, Maria Woodworth-Setter qui déclarent ce qu'est le réveil parce qu'elles ont, ils ont vécu le réveil, ils ont vécu des temps de grâce. Je pense à John Lake en Afrique du Sud pendant 5 ans, qui a vécu un temps de visitation puissant par le Saint-Esprit avec plus de 100 000 guérisons qui ont été recensées. Maria Woodworth-Setter qui tenait ses campagnes sous chapiteau et qui a vu la gloire de Dieu se manifester, éclater dans des villes, bouleverser complètement des villes entières sur son passage. Et en réfléchissant de plus près à la définition du réveil, j'en suis arrivé en quelque sorte à une définition assez simple. Le réveil est le signe, le réveil est le signe et la conséquence d'une préoccupation de plus en plus grande pour Dieu et Jésus-Christ. Le réveil, c'est cela. Est-ce que Dieu vous préoccupe? Est-ce que vous êtes préoccupé par la présence de Dieu? Est-ce que vous êtes préoccupé par le réveil? Est-ce que la question du réveil est quelque chose qui vous interpelle, qui vous questionne? Est-ce que chaque jour, quand vous vous levez, ou chaque soir, quand il faut vous endormir, eh bien vous êtes là dans vos draps et vous vous dites « Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit. » Alléluia. Parfois, je prie que ma femme ne se réveille pas quand je fais ses prières la nuit, parce que parfois ce genre de prière peut m'agiter dans mon lit. On a besoin de rechercher la présence de Dieu. Alléluia. Seigneur, réveille-nous. La préoccupation première de la question de Dieu. Et là, nous avons un premier signe du réveil, puisque Paul était un homme réveillé. Je dirais que c'est un message centré sur la personne de Christ. À partir du verset 1 jusqu'au verset 6, nous voyons ici quelle est la préoccupation de Paul lorsqu'il rencontre quelqu'un qui a la prétention d'être un disciple de Jésus. Puisque la Bible nous dit qu'il parcourait les hautes provinces de l'Asie, il arrive à Éphèse, il rencontrait quelques disciples. Non, visiblement, ces gens n'avaient pas craint de dire qu'ils étaient des disciples. Mais la préoccupation de Paul, c'est de savoir, mais disciples de qui, de quoi, comment? Quelle est votre foi? Quel est votre évangile? Alors, ils avaient vécu déjà la repentance, puisqu'ils avaient fait l'expérience du baptême de la repentance. Et sur cette question, je crois que Jean-Baptiste était très clair. Il exigeait des fruits dignes d'une repentance, ce qui signifie que ces gens avaient vécu déjà, dans le développement de leur expérience, cette question du péché. Ils étaient clairs sur le péché, sur la transgression de la loi. Ils avaient décidé de mettre leur vie en règle, de vivre une vie pure, une vie sainte. Dans ce domaine, les choses étaient cadrées, les choses étaient claires. Ils avaient produit des fruits dignes de la repentance, qui était l'exigence d'un tel baptême. C'était un baptême préparatoire à vivre une nouvelle expérience, celle du baptême de feu que Jésus désire nous communiquer. D'ailleurs, Jean-Baptiste, parlant du baptême dans le Saint-Esprit, il a dit « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu ». Cela nous parle de combustion, parce que lorsque le feu brûle, ça détruit des choses. Et le travail du Saint-Esprit consiste à venir produire cette œuvre de combustion, de destruction à l'intérieur, mais aussi de libération de l'énergie de Dieu. Alléluia ! Dieu soit loué pour le ministère du Saint-Esprit. Et vous remarquerez dans l'Ancien Testament que le Saint-Esprit ou le feu ne tombait sur l'autel qu'à la condition que l'autel soit réalisé conformément au modèle laissé par l'Éternel. On voit ce combat d'Élie au Carmel contre les faux prophètes de Baal, alors que c'est le déclin spirituel dans le pays. Il bâtit un autel, il met les pierres, et ensuite le feu va descendre conformément au modèle que Dieu lui a donné. Et le feu ne peut descendre dans nos vies qu'à la seule condition que nous mettions l'autel à sa place. Que l'autel soit véritablement bien dressé dans notre existence, qu'il y ait l'autel de la croix dans notre vie pour accueillir, réceptionner le feu du Saint-Esprit. Alléluia. La croix au centre, Jésus au centre, un message centré sur la personne de Christ. Est-ce que c'est votre préoccupation pour ceux qui vous entourent? Qu'ils connaissent Jésus, qu'ils connaissent la grâce qui est en Jésus-Christ. Tout chrétien doit être animé par une telle préoccupation, que ceux qui l'entourent découvrent l'évangile de Jésus. Deuxième point, je l'ai appelé une priorité, deuxième point, une priorité sur la transmission, la question de la transmission. Au verset 2, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Verset 6, « Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. » La notion de transmission. Dieu désire que nous vivions deux expériences majeures. Le salut par grâce. Amen. Le pardon de nos péchés. Mais aussi le baptême dans le Saint-Esprit. Le salut par grâce, c'est le don que Dieu offre au monde entier, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais le don du Saint-Esprit est un privilège, la promesse du Père, qui est accordée à l'Église des rachetés. Ceux qui ont été lavés par le sang de Jésus peuvent prétendre rechercher la présence du Saint-Esprit, ou plutôt sa puissance. Le sang de Jésus nous purifie, alors que le Saint-Esprit nous revêt. Il nous communique l'équipement divin. Attention, il ne s'agit pas, bien entendu, d'un diplôme. Il ne s'agit pas non plus d'un critère de perfection, non plus d'un label d'ultra-sainteté, ni même d'une décoration ou d'une récompense. C'est une grâce. Les dons de Dieu sont des grâces. Tout don de Dieu, toute grâce excellente viennent du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Les dons spirituels, dans la parole de Dieu, les charismata, charismata, les dons spirituels viennent du terme charis, c'est-à-dire la racine est grâce. Tout est grâce, les dons spirituels sont des grâces, des manifestations surnaturelles de la grâce de Dieu au travers de nos vies pour que Dieu manifeste le ministère de Jésus et qu'ainsi des milliers, des multitudes soient guéris, libérés, convaincus de péché. Pneumatikos en grec, soufflé par le Saint-Esprit. Seigneur, souffle dans nos cœurs. Opère dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et vous voyez que cette transmission réclame plusieurs points importants. Dans les signes du réveil, il y a la prière. Puisque si Paul a mis ses mains, il a mis ses mains en priant. S'il n'avait pas prié, rien ne se serait produit. Il y a la prière et l'imposition des mains. L'imposition des mains, ici, nous parle de la présence tangible de Dieu. L'imposition des mains, je ne vais pas faire toute une étude biblique détaillée théologique de l'imposition des mains, il me faudrait plusieurs heures pour aborder cette question. Je l'ai fait à trois dans le cadre de nos réunions sur le réveil, mais schématiquement, de manière assez simple. Lorsque je mets ma main sur quelqu'un, je manifeste l'amour de Dieu. On est d'accord, c'est de la compassion. Et nous pouvons tous manifester cette compassion, mettre une main sur une personne qui souffre. Dire « Seigneur, bénis-la. Seigneur, restaure-la. » Quand je prie pour les malades, je sais que certains ne seront pas guéris parce qu'il y a un processus pour certains qui va les conduire à la guérison. Mais je ne m'empêche pas de mettre ma main sur eux pour leur dire que je les aime. C'est important d'imposer les mains et de manifester la tendresse de Christ, l'amour de Christ. Mais il y a aussi l'imposition des mains qui est la conséquence de la présence tangible de Dieu. Où là, c'est un point de contact, où le serviteur, le disciple de Jésus devient un canal au travers duquel Dieu donne quelque chose. Dieu manifeste sa puissance. Nous le voyons chez Paul lorsqu'il prie pour le père de Publius La Bible dit, il lui imposa les mains, il fut guéri. Immédiatement, le contact a produit la guérison. Et il y a des manifestations tangibles de la présence de Dieu lorsque nous commençons à prier, à libérer notre compassion à l'égard des malades. La Bible dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de l'apôtre Paul. Il nous faut pratiquer l'imposition des mains. Et vous le faites, bien sûr. Continuez à le faire. C'est de cette manière qu'il y aura des guérisons. Manifestez tous la compassion de Christ. Vous pouvez le faire dans le tramway. Vous pouvez le faire dans le métro. Il n'y a pas de métro ici, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Mais imaginez que vous ayez un métro, comme à Paris, dans le métro, dans le bus, dans le tramway, partout. Vous voyez un malade, parlez avec lui. Parlez-lui de l'amour de Jésus. Proposez-lui de prier pour lui. Prenez sa main, tout simplement. Ne commencez pas à faire un acte sacramental, vous savez, qui va attirer l'attention de tout le monde. Ce n'est pas le but, non ? Seigneur, bénis cette personne. Et la vie de Jésus peut se libérer et toucher le cœur de cette personne. Et Dieu peut vous utiliser en libérant le flot du Saint-Esprit avec les dons d'inspiration, les dons de révélation, les dons de puissance. Je me souviens de cette dame, lorsque nous étions à l'île Maurice, on frappe à la porte de ma chambre et il y avait une dame dans une chaise roulante, une mamie avec sa fille qui était derrière. Et elle me dit, « Pasteur, nous savons que vous êtes là pour cette campagne. Pourriez-vous prier pour ma maman afin qu'elle soit guérie ?» J'ai dit, « Mademoiselle, suis-je Dieu pour guérir votre mère ? Ne placez pas votre confiance en moi, placez-la en Jésus. » Et elle a compris. Alors, j'ai simplement dit, « Seigneur, bénis cette dame. » Et là, le flot du Saint-Esprit s'est répandu. J'ai dit, « Madame, écoutez-moi bien, voilà ce que vous allez faire maintenant. » La Bible parle des dons spirituels, elle parle des opérations du Saint-Esprit. Et il nous faut apprendre à opérer avec le Saint-Esprit. Pour cela, il nous faut développer notre écoute au Saint-Esprit. Ça réclame de la prière, ça réclame d'être disposé, disponible. Notre sœur parlait de connexion tout à l'heure, mais en fait, l'antenne, il faut qu'elle soit dépliée. Il faut que l'antenne soit dépliée, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux faire ? Seigneur, comment veux-tu procéder ? Je suis disposé à faire ce que tu voudras. Tu veux parler ? Tu veux que je fasse un geste ? Conduis-moi, Seigneur. Et là, le Saint-Esprit est entré en action. J'ai dit, madame, écoutez-moi bien, samedi, je serai au stade, venez. Je prêcherai l'évangile, vous allez faire une chose. Vous allez vous convertir. Vous allez donner votre vie au Christ. Vous allez l'abandonner. Vous serez pardonné de vos péchés. Ensuite, je prierai pour les malades. Je vous demanderai de vous lever, vous vous lèverez, vous serez guéri. Les choses se sont passées de cette manière devant 22 000 personnes, quelques jours plus tard, filmées par les caméras. Nous avons des preuves, on n'invente pas les choses, ce sont des choses réelles. Mais le Saint-Esprit est entré en œuvre, en action. La Bible parle don d'inspiration, don de révélation, don de puissance. Et dans cette simple guérison, plusieurs dons se sont mis en mouvement, ont opéré ensemble. Le don de foi, parce qu'il faut le don de foi pour demander à un paralytique de se lever. Ne vous amusez jamais à dire à un paralytique « lève-toi et marche » si cette parole n'est pas venue de Dieu. Ce sera la catastrophe. Il faut que ce soit mu par le Saint-Esprit, mis en mouvement par le Saint-Esprit. Il faut le don de foi, ensuite une parole de sagesse. Vous allez faire de cette manière une parole de connaissance. Vous vous lèverez. Le Saint-Esprit désire mettre tous ses dons spirituels en œuvre. Alors comment les expérimenter ? Il faut rechercher. Rechercher, dit Paul, les dons spirituels. Aspirer aux dons spirituels. Il n'y a pas de secret. Nous ne pouvons pas les obtenir en payant, en faisant 20 ans d'études bibliques dans une école. Non, les dons spirituels se reçoivent du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, dans la présence du Saint-Esprit. Et plus j'aspire, plus je reconnais que le vase a besoin d'être rempli, plus l'huile coule, et Dieu me remplit de sa présence. Alléluia. John Lake, qui était utilisé en Afrique du Sud, a vécu des choses extraordinaires. Et avec sa femme, ils travaillaient ensemble dans l'exercice des dons spirituels. Lui, il imposait les mains. Et quand il n'y avait pas de guérison, parce que leur problème, c'était quand il n'y avait pas de guérison. Nous, notre problème, c'est qu'il y a peu de guérison. Eux, c'est quand quelqu'un n'était pas guéri que ça leur posait un problème. Alors, sa femme lui donnait un coup de main et ils avaient l'entrée de la maison, la sortie de la maison. Tous les amis africains venaient par milliers pour recevoir la guérison divine. Ils entraient par une porte, ils ressortaient par l'autre. Et entre les deux, John Lake imposait les mains, il priait. Et quand ça bloquait, c'est sa femme qui venait, qui donnait une parole de connaissance et ça débloquait l'affaire. Et il y avait un miracle. Alléluia ! Waouh, Seigneur, j'ai soif de ça. Vous avez soif de la présence du Saint-Esprit ? Un message centré sur Jésus, une priorité sur la transmission, la prière, il a prié, l'imposition des mains, le baptême dans le Saint-Esprit, ils ont reçu le baptême de feu. Une autre priorité, j'appelle cela la proclamation du royaume. Pendant 3 mois, vous allez voir cela, on va lire le verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Il n'avait pas de problème sur le contenu de ses messages. Pendant 3 mois, je défie quelqu'un de se dire, voilà, il faut que je prêche pendant 3 mois sur le royaume de Dieu. Et on sait que Paul, tous les jours, il était en train d'enseigner plusieurs heures par jour. Mais il était inépuisable dans le domaine du royaume de Dieu. Alors en lisant ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'il pouvait prêcher? De quoi devait-il parler? Quand on parle de royaume, on parle du domaine, puisqu'en anglais, royaume, kingdom, the domain of the king, le domaine du roi. Il a dû parler justement de l'établissement de l'œuvre de Dieu dans la vie de ceux qui écoutaient. Le royaume de Dieu se manifeste à quel niveau aujourd'hui? Eh bien, dans votre vie, parce que vous êtes le domaine du roi. Amen. Dis-le, je suis le domaine du roi. Le temple du Saint-Esprit. Amen. Ensuite, l'Église locale et l'épouse dans la gloire. Nous avons toute la projection du message de Paul quand il enseigne concernant le royaume de Dieu. Et vous êtes les agents du royaume de Dieu. Je me souviens d'ailleurs d'une mission au Pakistan où j'avais fait le vol Karachi-Lahore dans un avion, un Boeing. C'est la première fois que j'ai vu un Boeing voler en rase-motte. Je me suis dit, on va bientôt cueillir les pâquerettes si ça continue. Et comme on était en plein désert, je regardais de près, je ne voyais pas de pâquerettes. Je me dis, alors on va s'écraser. Mais bon, à l'intérieur, quand c'est comme ça, vous priez beaucoup. Vous priez beaucoup. Vous épuisez tout votre stock de prières. Et avant de monter dans l'avion, il y avait une super pancarte sur laquelle on pouvait voir des grenades, des kalachnikovs. Et il y avait des croix dessus disant, c'est pas permis dans l'avion tout ça. Vous voyez? Et quand on était à bord, l'avion était sur la piste, prêt à décoller, il part. Et tout à coup, il freine brutalement au milieu du tarmac. On se demandait ce qui se passe. Et tout à coup, dans l'avion, on a entendu « Allah Akbar !» Et tout le monde a commencé à faire la prière dans l'avion. Nous sommes descendus dans nos sièges. On a dit « Seigneur, bénis ce vol !» Mais on a vu la gloire de Dieu se manifester au Pakistan. Et je me souviens, quand je suis monté à bord de l'avion, j'avais mon billet d'avion. Il y avait un taux d'humidité dans l'air incroyable et tous les chiffres étaient en train de s'effacer de mon billet d'avion. Et l'hôtesse regarde, elle regarde mon nom et puis elle n'arrivait pas à déchiffrer mon nom. Vous voyez, c'était vraiment un vol très sûr, comme on peut dire. Elle n'arrivait pas à découvrir mon nom, il y avait juste des numéros. Elle me dit, mais c'est quoi votre nom? Et elle lit 007. Je lui dis, James Bond est mon nom. My name is Bond. Mais on a vu la gloire de Dieu au Pakistan. Mes amis, il me faudrait des heures pour vous parler du royaume de Dieu. Les anges, j'ai vu les anges nous délivrer d'une voiture en flammes. Dieu nous a sauvés. Les anges accompagnent les saints, ceux qui marchent avec Dieu. Ils campent autour de ceux qui le craignent. Et nous croyons aussi à l'œuvre des anges, la proclamation du royaume de Dieu. Seigneur, envoie tes anges, envoie tes messagers, manifeste-toi. Je me suis converti grâce à l'intervention d'un ange. Lorsque le 5 février 1985, alors que les démons voulaient me détruire, j'avais fui ma maison. Et je pensais que j'allais mourir, je n'avais plus d'espoir. Et c'est dans la rue que là, Dieu se manifeste alors qu'un chrétien me tend un tract qui parle de la vie de Nicky Cruz. Je lis l'histoire de cet homme et en pleine rue, bam, je percute un être invisible dont les pieds touchent la terre et la tête touche les cieux. Et cet être était translucide. Et je voyais les pans de sa robe, je n'arrivais pas à voir son visage. Et tout à coup, la prière que j'avais envoyée vers Dieu à 6 heures du matin revient comme un boomerang dans mon esprit avec un message. Dieu a rendez-vous avec ta vie. J'ai fait demi-tour, je suis allé voir ce chrétien d'origine malgache, je lui ai donné mon curriculum vitae spirituel, et puis il m'a annoncé l'évangile. Et j'ai été saisi par la présence de Dieu. Convaincu de péché le soir, j'entendais la bonne nouvelle, je répondais à l'appel au salut. Le Saint-Esprit est descendu sur moi, il m'a donné cette vision de la gloire. J'étais libéré des démons, purifié de mes péchés, rempli du Saint-Esprit. Et quelques minutes plus tard, j'étais à la maison en face d'une sorcière. Ma mère, premièrement, et l'autre qui faisait tourner les verres sur la table, qui faisait mourir les gens par des malédictions. Et je proclame le nom de Jésus dans le salon de divination. Je dis, maman, maman, Jésus est ressuscité. Elle me dit, quoi, t'as consommé de la drogue? Je dis, non maman, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et là, la sorcière se lève et elle commence à me maudire avec ses paroles de malédiction. Et j'ai dit, au nom de Jésus, maintenant tu sors. Et là, elle tombe par terre et elle fait ça comme un serpent. Et moi, je fais, maman, qu'est-ce que j'ai fait, maman? C'était la puissance du nom de Jésus, mes amis. La puissance du nom de Jésus. Alléluia. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu se manifeste avec puissance. Quatrième point, versets 9 à 10. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Il fait des disciples. Et nous voyons une autre clé du réveil, c'est le discipulat. Faire des disciples, prendre l'Église, s'occuper de l'Église, mettre à part tous ceux qui se déclarent pour Jésus. et les aider parce qu'ils ont cette volonté de bâtir une vie identifiée à Jésus-Christ. Alors c'est notre travail que d'aider tous ceux qui croient dans le Christ à développer une vie de sainteté, une vie de pureté. Nous vivons de plus en plus dans une époque où le péché se répand comme des effluves nauséabondes, où l'identité même de l'être humain est de plus en plus remise en question, le genre de l'être humain est même atteint, où les gens se demandent maintenant qui ils sont, ce qu'ils sont, si le mariage est important. Certains vivent des expériences sentimentales, sexuelles, une des vies débridées, loin du modèle divin, parce que c'est non seulement le modèle biblique, mais c'est déjà le modèle divin. Parce que Dieu nous l'a donné, nous l'a enseigné, on l'a inscrit dans les Écritures, mais c'est le modèle de Dieu, ce n'est pas le modèle de certaines personnes qui tout à coup se sont dit « on va écrire un livre, on va parler du mariage d'un homme avec une femme ». Mais aujourd'hui, l'ennemi travaille d'une telle manière à pousser les gens dans la déchéance, dans la pornographie, dans toutes sortes de dépravations, et il faut se garder pur si nous voulons voir Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et nous désirons voir le Seigneur, voir sa gloire, et prendre l'Église à part, c'est l'enseigner, c'est prendre soin d'elle dans le domaine de la sainteté, de la pureté, de la foi, de l'obéissance, de la soumission au Christ, de l'abnégation, de la croix, renoncer à soi-même. Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, accepter de payer le prix face à la critique, face au rejet, face à la persécution. » Un autre point, ce sont les démonstrations de puissance, versets 11 à 12. Des choses étonnantes. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Il est question de la présence tangible, au point qu'on impliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. J'arrêterai là ce matin. Ensuite, on va prier, bien sûr, pour le baptême dans le Saint-Esprit. On continuera à prier pour des malades si certains sont poussés maintenant à s'avancer suite à ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils ont vu. Au début de ce service, nous voulons prier aussi pour celui qui veut changer de vie, qui entend le message de l'Évangile et qui ce matin désire changer de vie, vivre une vie nouvelle. Et Dieu manifeste ces signes de guérison que vous avez vus tout à l'heure, ces témoignages que vous avez entendus pour dire « Hey, je suis là ». En grec, « semeion », signe, signal. Dieu signale sa présence par des prodiges. Dieu signale sa présence par des délivrances. Il signale sa présence par des guérisons. Il est présent. Et il désire vous dire qu'il vous aime. Jésus faisait des miracles, mais il est mort sur la croix pour nos péchés. Et je vous invite à regarder au travers de ces miracles pour qu'ils vous conduisent plus loin. Parce que le salut est éternel. Les miracles sont temporels. Le salut est plus important que tous les miracles que le Seigneur pourrait accomplir parmi nous. Aujourd'hui, il y a bien plus qu'un aveugle qui recouvre la vue, bien plus qu'un sourd qui entend, qu'un muet qui parle ou qu'un lépreux qui est purifié. Il y a bien plus qu'un paralytique qui marche. Il y a celui ou celle qui passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de Satan à Dieu parce qu'il place sa foi en Jésus. Vous pouvez venir ce matin et repartir guéri et pour autant poursuivre votre vie et malheureusement terminer ou continuer dans l'éternité, dans les tourments et sans Dieu. Je me tiens sur le pas de la porte du royaume de Dieu en tant qu'évangéliste pour vous dire, n'allez pas dans le lieu de perdition, n'allez pas dans les lieux de tourment, n'allez pas en enfer, mais allez vers le ciel. Et pour aller vers le ciel, il faut venir vers la croix, et aller vers la croix où Jésus a donné sa vie. Et ce Jésus, recevez-le, accueillez-le comme votre sauveur, mais pas seulement comme votre Seigneur. Suivez-le en lui livrant votre existence, en lui livrant votre vie. Alors vous pourrez dire, je suis sauvé. J'ai reçu la vie éternelle et je vais jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Et regardez l'apôtre Paul, accompagné de signes étonnants de la puissance de Dieu, des démonstrations de puissance, des miracles, des prodiges. Terrasse en grec, il est question de la vache à deux têtes, des choses qui dépassent l'entendement. D'ailleurs, la Bible dit, il ne faisait pas seulement des miracles, mais des miracles extraordinaires. Alors mes amis, déjà un miracle, c'est quelque chose. Mais un miracle extraordinaire, j'ai eu l'occasion d'en voir quelques-uns dans mon ministère et je peux vous assurer que Dieu est capable de faire des choses étonnantes. Comme ce jour où les habitants de la ville de Kandy City au Sri Lanka avaient dit « S'il ne pleut pas dans la campagne de cet évangéliste, nous croirons que son Dieu est vivant. » Des tempêtes étaient annoncées, des pluies diluviennes. Et le premier soir où nous sommes arrivés au Sri Lanka, la pluie tombait. Toute notre publicité Elle dégringolait le long des murs. On avait investi de l'argent pour une campagne de publicité. Tout était réduit dans l'eau. Tous les posters se décollaient. C'était la catastrophe. Il y avait de l'eau dans les rues. Les gens ne pouvaient même plus circuler. Qu'avons-nous fait ? Nous sommes allés au stade. Et dans le stade, il y avait des tonnelles. On était 200 chrétiens à prier. L'église au Sri Lanka, elle est persécutée. Et les chrétiens ont prié. On avait tout de même les autorisations du gouvernement. On a prié pendant plus de 2 heures. Et vers 22 heures, une chrétienne se met à prophétiser. Et elle dit, il ne pleuvra plus une seule goutte de pluie dans la ville de Kandy à partir de demain jusqu'à la fin de la campagne de mon serviteur. Le serviteur rempli de foi que je suis a dit, amen, par la foi. Il dit, Seigneur, si cette prophétie n'est pas inspirée demain, je serai trempé avec le micro sur l'estrade. Le lendemain matin, j'ouvre les volets. Il faisait soleil sur la ville. Je dis, waouh, ça se présente bien. Le soir, j'arrive au stade et je regarde les nuages à quelques kilomètres qui arrivent, des nuages sombres, gorgés de pluie. Et je pense en moi-même, Seigneur, soit tu interviens ou c'est la catastrophe. J'ouvre la porte de la voiture, les musiciens sont en train de faire les réglages sur l'estrade. Quelques centaines de personnes sont là et ce soir-là, plus de 6000 personnes vont se présenter. Et je descends de la voiture et là, je vois une femme qui tourne par terre. Elle tourne sur elle-même et les démons sont en train de sortir d'elle alors que la réunion n'a pas commencé. Et là, ça n'est plus une prophétie, mais c'est la voix du Seigneur qui me dit, Franck, j'ai autorité dans le ciel et sur la terre. Il ne pleuvra pas une seule goutte de pluie dans ta campagne d'évangélisation. Je dis, ouais, alléluia. Et le soir même, la grâce de Dieu s'est manifestée. Un lépreux purifié, des enfants muets qui parlent, des sourds qui entendent, des muets qui recouvrent la vue, à tel point que le ministère de la Santé m'a convoqué. Et arrivé dans son bureau, il ferme toutes les portes autour de lui. Je me place en face de lui. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va m'arriver, Seigneur ? Interviens maintenant ! Et il me regarde, il réfléchit, et il me pose une question. Il me dit, dites-moi, monsieur, qui est ce Jésus ? Waouh ! Faut pas le dire deux fois à un évangéliste. J'ai ouvert ma Bible, Jean 3,16. Je lui ai annoncé l'évangile. Je dis, monsieur le ministre, pourquoi me posez-vous une telle question ? Il me dit, je suis ministre de la Santé, nous avons enquêté, nous avons vérifié. Des aveugles voient, des sourds entendent, des boîtes marchent. Et je lui dis, c'est juste ce qui est écrit dans ma Bible ici, monsieur. Il m'a dit, priez pour moi. J'ai prié pour lui. Il me dit, je sais que vous avez des problèmes. Oui, quelques problèmes avec une cinquantaine de prêtres bouddhistes qui viennent frapper les gens sur le lieu d'évangélisation. Je lui dis, mais vous pouvez peut-être m'aider. Il me dit, oui, je peux vous aider. Voulez-vous que l'armée vienne ? Je dis, oui. J'ai dit, envoyez beaucoup de soldats. Parce que j'avais pensé appeler les militaires au salut. Et les soldats sont arrivés le lendemain avec les kalachnikovs. Tous les plantons étaient placés à de nombreux endroits, sécurisaient la foule. Et quand je lançais l'appel au salut, les soldats, eh bien, tenaient leur arme d'une main et de l'autre, ils recevaient Jésus. Ils invitaient le Seigneur et bon nombre ont été sauvés de leurs péchés. Et les 40 ou 50 prêtres ont été mis ensuite en prison. On leur envoyait des aumôniers protestants pour les bénir et les encourager. Alléluia ! Dieu est un Dieu bon, des démonstrations de puissance. Alléluia. Aimé Cizeron a été utilisé dans le réveil à l'île de la Réunion, même à l'île Maurice. Et quand il a été chassé, eh bien, il est monté dans la voiture. Les gens étaient désespérés. Et ils touchaient la voiture de l'évangéliste. Et ils étaient guéris. Lorsque Tommy Hicks, dans les années 50, est allé en Argentine, les Sud-Américains connaissent le ministère de Tommy Hicks. C'était une campagne incroyable. Il arrive là-bas tout simplement pour essayer de coordonner la campagne d'un évangéliste. Il apprend que le président de la République est couvert d'un eczéma. Il ne peut plus se présenter à la télévision. Que fait-il ? Le lendemain, il va à la Casa Rosa, qui est l'équivalent de la Maison Blanche. Il y va et il voit les policiers. Il dit « Je viens pour prier pour le président ». Tout le monde dit « Mais vous êtes pas un peu fou ? Allez-vous-en d'ici, vous ». Et il se fait chasser. Le jour suivant, il revient et il commence à dire « Je viens pour prier pour le président ». Et là, le policier est interpellé, les gardes sont interpellés. Ils font remonter le message au chef d'État. Il rentre dans le bureau du chef d'État, il prie pour lui, l'eczéma tombe en poussière, guéri. Le président, bouleversé, lui dit « Vous avez besoin de quoi ?» Il a dit « D'un stade ». Il met un stade à sa disposition. Mes amis, en quelques semaines, plus de 200 000 personnes sont venues écouter l'Évangile dans ce stade. C'était un des plus grands impacts de réveil dans l'histoire de l'Argentine. Les gens ne pouvaient plus rentrer dans le stade, à tel point qu'ils touchaient le béton du stade. Et ils étaient guéris. Dans nos campagnes en Afrique, au Togo, plus de 25 000 personnes entendaient l'Évangile. Les aveugles, la puissance de Dieu touchait ces malades. Et quand nous sommes partis, les pasteurs m'envoyaient des messages jusque 15 jours après. Ils me disaient, ils prennent les posters de la campagne parce qu'ils veulent que l'homme de Dieu prie pour eux. Ils les accrochent dans les cases et les démons sortent des cases. Mes amis, Dieu est un Dieu tout-puissant. Dieu est un Dieu qui manifeste sa gloire. Il fait grâce à des nations. Quand j'étais au Pakistan, sur l'estrade, il y avait des milliers de bouteilles remplies d'eau. Et le pasteur me dit, pourriez-vous, frère, prier pour ces bouteilles remplies d'eau? Je dis, oui, je vais prier, mais pourquoi? L'eau, je me suis dit, peut-être que l'eau est polluée, ils ont besoin qu'elle soit purifiée. Je dis, Seigneur, garde-les de la dysenterie, garde-les de la maladie. Je dis, Seigneur, bénis ces bouteilles d'eau. Et les gens repartent, ils boivent l'eau. Et le lendemain, ils me demandent à nouveau de prier pour les bouteilles d'eau. Je lui dis, mais pourquoi voulez-vous que je prie encore pour les bouteilles d'eau? Mais il me dit, parce que quand ils boivent l'eau, ils sont guéris de toutes leurs maladies. Voilà. Je dis, quoi? Je dis, attendez. Je dis, pasteur, Dieu est capable de faire des choses étonnantes, extraordinaires. J'aimerais dire à cette population qu'il y a plus que la bouteille, qu'il y a plus que l'eau. Je vais prêcher ce soir sur Jésus, la source d'eau vive. Et ils n'auront plus besoin de venir déposer de l'eau pour être guéris de leur maladie. Ils vont repartir avec Jésus dans leur cœur. Et ce soir-là, j'ai prêché sur Jésus, la source. Si des fleuves d'eau vive, si vous croyez des fleuves d'eau vive, jailliront de votre sein. Et ils ont placé des milliers, il y avait 15 000 Pakistanais. Et ils sont venus, les femmes avec la burqa, recevoir Jésus, la vie du Christ. Les miracles, un homme qui a porté sa femme sur plusieurs kilomètres, sa femme infirme, il ne pouvait pas lui offrir une belle chaise roulante, il l'a pris dans ses bras, il était trempé de sueur, l'homme était épuisé, avec sa femme dans les bras, il regardait vers le ciel, la puissance de Dieu est tombée sur elle, elle a tendu ses jambes vers le sol, et elle s'est mise à marcher devant 15 000 témoins. Le Seigneur est vivant, mes amis, alléluia. Il est vivant, et nous avons besoin de voir Jésus venir au milieu de nous, établir son règne, son royaume.